Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, vous allez entendre un jeune explorateur français vous raconter une extraordinaire aventure. C'est Mathieu Tordeur. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors avant d'en venir à cette extraordinaire aventure que tu vas nous raconter, on a plein de questions. Quel petit garçon étais-tu ?
Moi, j'étais un garçon qui était un peu timide quand j'étais jeune, mais j'étais aussi un garçon fasciné par l'univers d'Hergé, de Tintin et de Milou. Mes parents me racontaient que j'étais pas même en CP, que je dévorais les bandes dessinées de Tintin, et j'avais cette fascination en fait pour ce petit personnage qui partait aux quatre coins du monde, qui allait en Inde, en Égypte, qui allait même sur la Lune. Et j'ai grandi beaucoup avec cet imaginaire et cet univers, et ça m'a donné envie en grandissant de moi-même partir à l'aventure.
Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu as fait pendant 51 jours, hein, seul en Antarctique, d'ailleurs tu as écrit un livre, Le Continent Blanc, et je suggère à nos auditeurs de le lire, Le Continent Blanc, paru chez Robert Laffont, dans lequel tu racontes cette extraordinaire aventure d'avoir fait le pôle Sud à ski. Et là, on a beaucoup de questions, tu t'en doutes. Alors tu écris dans ton livre, page 13, Le Continent Blanc, donc, tous aventuriers dans la vie. Comment ça ?
J'ai écrit ça pour commencer le bouquin parce que, à mon sens, on est effectivement NAIT tous aventuriers. Quand on est enfant, on expérimente un petit peu tout. On marche, on tombe, on goûte des aliments, on se coince les doigts dans des portes. L'enfance, c'est le temps de l'expérimentation. Et je pense qu'on est tous un petit peu des aventuriers quand on est au stade de l'enfance. Et c'est au fur et à mesure de la vie, eh bien, qu'on le devient de moins en moins peut-être, ou qu'on se conforte dans une forme de confort. Et parfois, on a peur de partir des sentiers battus. Mais je trouve que, ouais, l'enfance, on est tous des explorateurs, quoi. On est même des explorateurs un peu de l'extrême, parce que, eh bien, on apprend en fait à vivre tout simplement. Et je pense qu'après, il faut peut-être garder cet état d'esprit aventurier, explorateur, pour continuer à faire de sa vie une aventure et une exploration. Mais à mon sens, on est tous des aventuriers au départ.
Alors, tu dis qu'après, c'est probablement les obligations, la pression sociale qui incite à s'enfermer dans une zone loin de l'imprévu.
Ouais, loin, ouais, absolument, ouais. Oui, parce qu'on cherche tous à avoir une forme de sécurité, de stabilité, et je le comprends évidemment, mais peut-être que parfois on se ferme la porte à des aventures ou à des chemins de traverse parce qu'ils sont moins sécurisés. Moi aujourd'hui, je fais des aventures, des expéditions. Je me définis comme un aventurier, donc mon rôle, mon métier, c'est de faire des aventures et de ramener des histoires que je partage en conférences, dans les écoles, mais aussi en entreprise, et puis d'écrire des bouquins, de faire des documentaires pour la télévision. Mais c'est une position, ou en tout cas c'est une activité qui est certainement moins stable qu'un métier d'avocat ou de médecin, parce que moi je cours un petit peu après les projets, je m'embarque dans des aventures qui sont parfois pas faciles à monter, qui sont parfois dangereuses, et donc forcément on est loin d'une vie plus confortable et plus normé, plus cadré. Mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait vibrer.
Alors inversement, quand on mène une vie normée, comme tu dis, on se retrouve peut-être à 50 ans avec une vie qu'on n'a pas véritablement choisie.
Ben voilà, pour moi, il y a des choix que parfois qu'on fait, pas forcément en connaissance de cause, on les fait par besoin, par nécessité, et peut-être qu'on se retrouve à 50 ans à se retourner sur soi-même et se dire « Ah là là, je regrette de pas avoir expérimenté telle ou telle chose ». Et moi, cette peur du regret, c'est un de mes moteurs, en fait, pour partir à l'aventure. J'ai peur, plus tard, de me dire « j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça ». J'ai peur, d'une certaine façon, de passer à côté de ma vie, et c'est ce qui me pousse, en fait, à vivre des aventures, à chercher des moments d'intensité aux quatre coins du monde, et à revenir, justement, les raconter à ce micro. Moi, c'est vraiment cette peur du regret qui me pousse à entreprendre des aventures et des expéditions, et ouais, j'ai pas envie de me réveiller plus tard en regrettant de pas avoir réalisé certains rêves qui me faisaient lever le matin.
Alors tu dis l'aventure n'est pas une quête en soi, elle est un état d'esprit.
Ouais, parce que l'aventure pour l'aventure, je crois que c'est un petit peu terminé aujourd'hui. l'aventure, il faut qu'elle raconte quelque chose. Et puis, c'est un état d'esprit parce que l'aventure, elle ne se situe pas uniquement dans des perspectives géographiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on vit pas forcément une aventure. L'aventure, elle n'est pas nécessairement liée à une exploration géographique. Elle est beaucoup plus large que ça. À mon sens, il y a de l'aventure dans la science, il y a de l'aventure dans l'art. Et donc, elle est un état d'esprit parce qu'elle est accessible à tous, à qui veut bien, en fait, la comprendre et la vivre.
Tu dis même un entrepreneur qui s'engage sur la voie de l'innovation. Eh bien, il se lance dans une aventure.
Il vit une forme d'aventure, oui, absolument.
Ouais. Bon, il prend le risque d'échouer.
C'est ça.
C'est peut-être ça le critère, non ?
Bah, absolument. Pour moi, l'aventure, c'est sortir d'une zone qu'on connaît déjà. C'est s'engager sur une voie incertaine, sans connaître forcément l'issue. Et donc, c'est le cas quand on part rallier le pôle sud en solitaire, comme j'ai pu le faire. C'est le cas quand on s'engage dans la science pour trouver, par exemple, des nouvelles voies thérapeutiques. C'est le cas de l'entrepreneur qui va monter une start-up, une entreprise pour répondre à un besoin. C'est des gens qui ont des rêves, qui ont des envies, qui ont des projets et qui s'y lancent à 100% et qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont y trouver. C'est ça l'aventure.
Mathieu, tu disais tout à l'heure, j'ai peur d'avoir des regrets parce que c'est vrai qu'il y a des aventures qu'on ne peut plus tenter aujourd'hui. Tu as un de tes amis, Jean-Louis Etienne, par exemple, qui a fait... une traversée avec des chiens de traîneau. C'est de quel pôle ?
C'était en Antarctique.
En Antarctique.
Donc, pôle sud.
Pôle sud aussi, comme toi.
Ouais.
Et lui, il l'a fait avec des chiens de traîneau et aujourd'hui, ça n'est plus possible.
Alors, c'est plus possible pour plusieurs raisons. Donc, l'Antarctique, ce continent qui est le plus au sud du globe et dont j'ai traversé une petite partie en ski et en tirant mon traîneau en solitaire en 2018, eh bien, Jean-Louis Etienne, qui est donc un médecin explorateur français, l'avait traversé bien avant moi, à la fin des années 80, en 89-90, avec des chiens de traîneau. Je dis que c'est plus possible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'emmener des chiens en Antarctique, puisque ça bouleverserait peut-être l'écosystème en place et puis ça pourrait ramener des maladies pour les manchots qui vivent là-bas. Donc on n'a plus le droit d'emmener des chiens de traîneau. Il y a un protocole qui s'appelle le protocole de Madrid qui a été ratifié et qui empêche justement la venue d'espèces qui ne sont pas autochtones, qui ne sont pas présentes sur le continent antarctique. Et la deuxième raison pour laquelle cette expédition ne serait pas possible à reproduire, c'est que l'itinéraire qui a été emprunté par Jean-Louis et son équipe, eh bien, il a été abîmé. Il y a eu des barrières de glace qui se sont effondrées. Et aujourd'hui, l'itinéraire qu'ils ont emprunté, il n'existe pas. Parce qu'il y a de la glace qui s'est détachée du continent.
Et... La plateforme de glace Larsen.
Absolument, c'est la plateforme qui est en péninsule antarctique. La péninsule antarctique, c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud. Et donc, le début de leur expédition aujourd'hui se trouve dans l'eau. Donc, l'itinéraire exact ne pourrait pas être reproduit. Parce que même en Antarctique, il y a des manifestations du réchauffement climatique. On est quand même loin de toute activité humaine. L'Antarctique est protégée par le courant circumpolaire antarctique, mais malgré tout ça, il y a quand même des manifestations assez visibles et directes du réchauffement.
Alors tu parles de réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
On va écouter un titre qui s'appelle Latsuli, d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Beach House. Et ça, c'est un groupe américain, enfin la chanteuse est franco-américaine. Et c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée, notamment quand j'ai traversé l'Atlantique à la voile. Moi, ça me rappelle à chaque fois cette traversée.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Mathieu Tordeur, un explorateur français qui est venu nous raconter une extraordinaire aventure, l'aventure qu'il a menée sur le continent blanc, ce qu'il appelle le continent blanc. Il en a fait un livre, 51 jours seul en Antarctique. Il est parti donc tout seul, en tirant à ski, en tirant son traîneau sur lequel il avait sa tente et son ravitaillement. C'est une extraordinaire aventure, on a quantité de questions à poser, mais avant de te poser des questions plus avant, je voudrais reparler, Mathieu, de ce cycle de désintégration des glaces qui est terrifiant.
Bien, l'Antarctique, c'est un monde polaire, comme l'Arctique, l'Arctique qui est donc au nord de notre globe. Et on parle souvent de l'Arctique, puisque c'est un océan aujourd'hui qui se réchauffe trois fois plus rapidement que les autres milieux. Et donc en Arctique, l'océan se libère des glaces. Vous savez que l'Arctique est un continent qui gèle l'hiver et qui dégèle l'été. Mais aujourd'hui, les scientifiques prédisent que l'Arctique sera libre de glace l'été en 2050. Donc c'est un univers qui est en pleine mutation. Et en Antarctique, donc le continent qui nous intéresse le plus.
Mais qu'est-ce qui va se passer si ça libère les glaces?
Eh bien, il y aura, ce sera un océan qui sera libre de glace, et donc on aura la possibilité, par exemple, d'aller au pôle Nord en bateau. Il y aura des nouvelles routes maritimes qui vont s'ouvrir. Mais au-delà de ça, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, les calottes polaires, que sont donc l'Antarctique, le Groenland, mais aussi la banquise de l'Arctique, ce sont des climatiseurs du climat. C'est-à-dire que ces calottes polaires, elles sont blanches et donc elles réfléchissent énormément de chaleur vers la stratosphère. Et donc ça permet en fait à la Terre de ne pas emmagasiner cette chaleur. Quand on aura perdu ces surfaces blanches, la chaleur sera emmagasinée par les terres qui auront été libérées des glaces ou par l'océan. Et ça aura un effet accélérateur du réchauffement de notre planète, malheureusement. Donc les conséquences, elles sont directes sur le climat, sur les températures qui vont continuer d'augmenter. Et en Antarctique, on n'a pas exactement la même dynamique qu'en Arctique, qui est très forte, mais on a tout de même des manifestations du réchauffement avec des barrières de glace qui se sont effondrées récemment.
Et en 2017, je crois.
Ouais, alors il y en a eu en 2017, il y en a eu aussi l'année dernière, et ça c'est inquiétant parce que les scientifiques, les glaciologues ne savent pas en fait à quel rythme les autres barrières vont continuer de se déverser dans l'océan. Il y a des petites plateformes de glace qui se détachent et qui partent à la dérive, et aujourd'hui le continent antarctique est très étudié, mais c'est un continent qui est immense, qui fait 28 fois la taille de la France, et donc on n'a pas des scientifiques partout. Mais voilà, les yeux de des glaciologues sont rivés sur l'Antarctique, et aujourd'hui il y a des fortes inquiétudes sur ces plateformes de glace qui se détachent et qui se délitent progressivement du continent. Et on va voir comment ça avance, mais ce qui est sûr, c'est que c'est inquiétant.
Oui, dans ton livre, je te lis Le continent blanc, paru chez Robert Laffont, je le répète, tu dis en 2014, la banquise a atteint son niveau historique et en 3 ans, elle a atteint son minimum historique. Comment c'est possible, ça?
Moi, je suis pas un scientifique ni un spécialiste du climat, mais je sais qu'en Antarctique, les dynamiques sont très différentes qu'en Arctique. Et effectivement, il y a eu des étendues maximales de glace qui ont été atteintes et quelques années après, des minimales. C'est un équilibre curieux qui montre bien justement que le climat est déréglé. On a ces chiffres que depuis 1979, parce que ça fait que depuis cette année-là qu'on observe avec des images satellites l'étendue glaciaire autour du continent antarctique. En Arctique, c'est très visible. La banquise, elle diminue à la fois en superficie, donc c'est-à-dire en étendue de glace et en épaisseur de glace. En Arctique, on observe des minimums et des maximums, parfois à quelques années d'écart. Les scientifiques ont du mal à l'expliquer. C'est encore à l'étude, mais toujours est-il que c'est pas un processus qui semble normal. Il y a des dynamiques qui sont encore un petit peu méconnues, mais ça montre bien justement que ces mondes polaires sont en pleine mutation et que le climat d'une manière générale est en train d'être bouleversé par nos actions d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émises en excès.
Alors toi, un beau jour, tu décides d'aller explorer ce continent blanc.
Ouais.
Et tu décides de partir seul et puis sans assistance ni ravitaillement.
Ouais.
Alors explique-nous ça.
Ben c'était un peu un rêve d'enfant. Je vous parlais de Tintin au début, mais après Tintin, il y a eu la lecture de plein d'explorateurs polaires, que sont Amundsen, Scott, Charcot, Paul-Émile Victor, et puis même Jean-Louis Etienne, qui était le plus récent d'entre tous.
Et qui a parrainé ton expédition.
Et qui était le parrain de mon expédition, ouais. Absolument. Et moi, j'étais fasciné en fait par l'univers de ces premiers explorateurs. Je voulais en fait vivre une aventure un peu à la manière de mes héros. Et donc, j'ai choisi de partir, mener ma propre aventure, ma propre expédition en partant de la côte du continent antarctique en solitaire, donc vraiment tout seul et sans ravitaillement, on l'a dit, c'est-à-dire en tirant dans mon traîneau tout ce dont j'avais besoin pour vivre et survivre dans cet univers contraignant, agressif, difficile, parce que quand on parle d'Antarctique, on parle du continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux du monde, donc il faut partir bien préparé et avec beaucoup d'équipement. Et donc le projet, c'était ça, c'était de rallier en fait l'axe de rotation de la Terre au pôle sud et vivre une aventure un petit peu à la manière des premiers explorateurs de ce continent blanc, à la fois pour moi me confronter à un univers qui me fascinait, mais aussi pour une deuxième raison, pour vivre une expérience de solitude sur une longue durée. Moi je suis parti, j'avais 26 ans, je venais de finir mes études supérieures et je trouvais que c'était un cadeau en fait que je pouvais me faire à moi-même que d'avoir 50 jours pour moi et rien que pour moi, c'est-à-dire sans téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans aucune forme d'engagement avec qui que ce soit, et avoir en fait quasiment 2 mois pour soi, c'est quelque chose en fait qui n'arrive jamais dans la vie, et je trouvais que c'était une forme de luxe en fait que d'avoir autant de semaines pour soi, c'était quelque chose d'assez rare, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir seul.
Tu dis quand même que la veille de ton départ, je te lis, tu avais tellement d'anxiété que tu en as pleuré.
Bah oui, parce que je voudrais pas paraître être un surhomme, quoi. Évidemment, on a des peurs, on a des doutes. Moi, je m'étais énormément préparé avant de partir, en allant m'entraîner dans les mondes polaires, donc en allant au Groenland, au Spitsberg, en Norvège. J'avais un coach, une forme de guide, si vous voulez, qui me formait, qui m'enseignait les bonnes pratiques, les bonnes techniques pour évoluer en sécurité. Mais malgré tout ça, la veille du départ, avant de prendre ce départ de 50 jours, eh bien forcément, il y a une forme d'appréhension. On ne sait pas comment ça va se passer, est-ce qu'on va y arriver. Donc, il y a une forme d'excitation énorme que de prendre le départ. Mais d'un autre côté, ouais, j'ai peur aussi. Et c'est bien, en fait. Je pense que c'est un sentiment positif parce que ça montre que je ne suis pas en surconfiance, que j'ai conscience de...
Limites.
Ouais, des limites, de la difficulté aussi, du challenge qui m'attend. Et ne ressentir aucune peur ou aucune forme de stress aurait été justement un signal d'alerte, je pense. Mais bien sûr que je suis dans un état d'esprit où je suis mitigé entre l'appréhension et l'excitation. Ouais.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Mathieu ?
Alors maintenant, on va écouter un morceau qui s'appelle Tarot. C'est d'un groupe qui s'appelle Alt-J. Et cette musique, moi, je pense que c'est une des musiques que j'ai le plus écoutées dans ma vie, notamment quand j'ai eu la chance de faire un long voyage en 4L avec mon ami d'enfance. On a parcouru 40 pays en 4L pour promouvoir le microcrédit avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas. Et avec Nicolas, on écoutait très, très régulièrement ce morceau. Donc, il me rappelle beaucoup, justement, ce voyage autour du monde en 4L.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
China gap jumps to 2 feet creep of the road. Two photo to record me lumps and war. Their ancestors is chance. Very yellow white flash. A violent red grips my scripts light as live like grass. Splash so high from the leak of a land. Mine is a watery pit. Painless with a man's distance. From medic, from colic, friend, enemy, foe. In 5 yards, from his leg, from his. Oh,
whispered you into my eyes. Colors and cares, glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp of the body grasp of not. Oh, oh, the photographic more. 3.1415, alive, no longer my amor. Waited for home with 54 doors open like arms, my love. With a great closeness, two cover, dark after nothing reunited with his head, come with you, Taro.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Mathieu Tordeur. Mathieu Tordeur qui a fait le pari, parce que c'est vraiment un pari, d'aller seul 51 jours en Antarctique à ski en tirant son traîneau sur une longueur quand même comme ça, seul. Ça doit être quelque chose qu'on a du mal à imaginer dans cette étendue blanche. Alors, on va te poser maintenant des questions très précises. Raconte-nous ton chargement et ce que tu appelles ta pulka, c'est-à-dire ouais. Ton traîneau. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus ?
Dans le traîneau, moi, je suis parti sur une distance de 1200 km de long. Mon expédition, elle était de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud. Et donc, dans mon traîneau, moi, j'ai surtout de la nourriture. Pour pouvoir m'alimenter pendant 50 jours. Et puis, j'ai de l'équipement pour survivre dans cet univers polaire. Donc, j'avais une tente, j'avais un sac de couchage qui allait jusqu'à moins 50 degrés. J'avais un tapis de sol, j'avais un réchaud.
J'ai lu que ton tapis de sol, il s'est s'était envolé.
Alors ça, c'était, il s'était envolé pendant un de mes entraînements, effectivement. Et là-bas, il y a beaucoup de vent. Et donc, il faut être très vigilant, en fait, à tout le matériel qu'on manipule, puisque si on, bah, on le laisse s'échapper, il peut partir comme ça, comme une feuille morte dans le vent, quoi. Parce qu'il n'y a rien pour le retenir. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rochers. Le cœur de l'Antarctique, c'est un immense désert. Il n'y a pas d'animaux. Les animaux, ils sont sur la côte du continent. On va trouver des manchots, des baleines, des phoques. Mais au cœur du continent, il n'y a rien. Donc, c'est que de la glace. Et donc, quand on se balade dans cet univers-là, il faut être bien équipé. Donc, comme je le disais, j'avais donc un sac de couchage, tente, un réchaud. Le réchaud, il va me servir à faire fondre la glace qui est sous mes pieds.
Parce qu'en fait, tu fabriques ton eau pour
voir. Ouais, il n'y a pas d'eau là-bas. On est dans un congélateur permanent, donc il faut fabriquer l'eau. Donc ça, ça veut dire qu'on met de la glace dans un réchaud qui fonctionne, lui, au fioul. C'est comme de, enfin, à l'essence.
Et tu as peur aussi de mettre le feu à ta tente.
Alors ça, c'est un des risques, effectivement. Faut être vigilant quand on utilise le réchaud, parce qu'il peut prendre feu et ça peut enflammer la tente. Et si on enflamme sa tente, on est quand même pas au mieux pour terminer l'expédition.
C'est sûr.
Donc j'ai tout ce matériel en fait de camping qui me permet de, ouais, d'être protégé des éléments, de dormir. Et puis la majorité du chargement, c'est de la nourriture. Donc j'avais 50 sacs de nourriture dans lesquels il y avait le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et tout ce que j'allais manger dans la journée. Ça représentait 6500 kilocalories par jour, donc c'est trois fois à peu près ce qu'un adulte mange en temps normal. Moi, évidemment, j'avais des dépenses énergétiques très importantes.
Hein, parce que tu tirais le traîneau.
Qui pesait 115 kilos au départ, donc il fallait le tirer, et puis évidemment, il faisait froid. Donc j'avais de la nourriture qui était très calorique. J'avais de la nourriture lyophilisée, beaucoup de chocolat, j'avais plein de fruits à coque, des fruits secs, du fromage, du salami.
Alors tu avais conditionné ça avant de partir toi-même, hein,
c'est ça. L'idée, c'est de se faciliter la vie sur place, donc on n'a pas du tout envie d'avoir des emballages, d'ouvrir des sachets, etc. Donc tout avait été compacté, reconditionné dans plein de petits sacs avant le départ, qui était au Chili. Moi, j'ai commencé mon expédition d'un point qui était proche de l'Amérique du Sud, et donc je suis passé par le Chili, par une ville qui s'appelle Punta Arenas, qui est tout au sud du Chili, et puis qui, en prenant un avion, et on m'a déposé sur la côte du continent antarctique.
Et là, quand l'avion s'en va, alors là, c'est la vraie solitude, là.
Là, c'est la grande solitude, c'est le grand, grand moment. Moi, ça faisait des années que je rêvais de ce moment, que je préparais cette expédition, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan de l'équipement, sur le plan logistique. On part pas comme ça en claquant des doigts, hein, en Antarctique, ça demande une longue préparation.
Et donc, ce moment... t'étais entraîné à tirer des pneus de 4x4.
Ouais, effectivement, on pourrait expliquer aux auditeurs, tirer un traîneau, c'est un effort qui est particulier, et si on vit pas en Norvège ou dans les Alpes, eh bien, on peut imiter un petit peu l'effet que ça fait en tirant des pneus de 4x4. Donc moi, j'avais connecté deux pneus de 4x4 à un sac à dos, et je tirais comme ça ces pneus qui, eux, frottaient en fait le sol, et donc ça représentait un peu l'effort que ça allait être avec un traîneau. Et je faisais ça dans le bois de Boulogne à
les
Paris.
Les gens qui te voyaient passer.
Mais les gens me prenaient un petit peu pour un fou. mais c'était...
Non, ils devaient se dire le pauvre cantonnier de la ville de Paris, à quoi on l'astreint.
Je sais pas trop ce qu'ils imaginaient, mais voilà, c'était une façon pour moi de préparer à la fois mes jambes et mon dos à un effort soutenu, régulier, que de tirer un traîneau. Et donc forcément, oui, on s'entraîne beaucoup. Moi, j'ai beaucoup... couru, j'ai beaucoup fait de vélo, j'ai participé à des courses qu'on appelle d'ultra-endurance. C'est des courses qui sont effectuées sur des très longues distances. On est sur des distances qui sont plus longues que les marathons. Donc il y a des triathlons qu'on appelle des Ironman qui sont où on enchaîne 180 km de vélo, un marathon, quasiment 4 km de nage. Donc moi j'ai beaucoup travaillé cette endurance, pas tellement la force physique, parce que bon, c'est important, mais le plus important dans tout ça, c'est d'être performant dans l'effort de longue durée. Et donc physiquement, j'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup fait de vélo.
Et puis tu emmènes double matériel aussi.
Ouais, alors il y a du matériel que j'emmène en double parce que c'est du matériel indispensable pour ma navigation, pour ma télécommunication, pour ma survie tout simplement. En fait, quand on part comme ça tout seul en Antarctique, eh bien il n'y a pas d'hécatlon sur la route, quoi. Donc il faut partir avec tout ce dont on a besoin et parer à toute éventualité. Donc ça veut dire avoir deux téléphones satellites si jamais il y en a un des deux qui tombe en panne ou qu'on en casse un, prendre deux réchauds parce que le réchaud il est vraiment essentiel pour boire et manger, donc on prend pas le risque d'en prendre qu'un seul. Donc c'est du poids en plus, mais c'est quelque chose qu'on peut pas auquel on peut pas couper, quoi. On peut pas se dire je prends qu'un seul réchaud, on verra bien. Vraiment il faut mitiger le risque, l'encadrer au maximum, et ça passe par justement du matériel qu'on va prendre en double.
Et alors tu discutes dans ta tête aussi pour savoir si tu prends double bâton, parce qu'un bâton, alors j'ai découvert que ça pesait 200 et quelques grammes.
Ouais, ça dépend des modèles, mais en fait on devient un petit peu obsédé par le poids quand on part sans ravitaillement, parce que encore une fois, tout ce dont on a besoin, on va le transporter à sa propre force. Donc ça veut dire tout l'équipement, toute la nourriture. Et si on n'est pas vigilant, on peut se retrouver avec un traîneau qui pèse 150-200 kilos, quoi. Moi, je calculais absolument tout. Et effectivement, les bâtons de ski sont rentrés en ligne de compte, quoi. Je me disais, est-ce que je prends des bâtons de rechange ou est-ce que j'en prends pas? Et c'était une vraie hésitation, et c'est pour ça effectivement que je l'ai écrit dans le bouquin, pour expliquer à quel point en fait il faut être méticuleux et s'intéresser à ce genre de problème, même si c'est 200 grammes. Et bien finalement j'ai choisi de pas prendre de bâtons de rechange parce que j'avais des arceaux de tentes de rechange. Tu sais, les tentes elles fonctionnent avec des arceaux, et j'avais des arceaux de tentes de rechange parce que si le vent venait à casser ces arceaux, et bien j'avais des arceaux de rechange, et donc je m'étais dit que dans tous les cas je pourrais utiliser soit les arceaux de rechange, soit les arceaux qui auraient été cassés, pour les utiliser comme un bâton de fortune. Et donc ça m'évitait de prendre une deuxième paire de bâtons parce que j'aurais pu me fabriquer des bâtons.
Et ta tente fait 95 cm de haut, c'est
alors,
ça?
Ouais, quand
alors
ouais, quand
elle glisse dessous à plat ventre.
Quand elle est montée, elle est pas haute, ouais. On peut pas être debout, c'est vraiment un abri. Après voilà, la tente, on y est assis, on y est allongé, mais c'est sûr que oui, c'est une expérience particulière, hein. C'est vraiment le contact avec la nature, et ça dure 50 jours.
Regarde, ce que tu nous as choisi maintenant, c'est presque en liaison.
Ouais,
c'est, parle de musique.
C'est un morceau qui s'appelle Sweet Disposition, et c'est un groupe qui s'appelle The Temper Trap. Et ce groupe, moi je l'ai énormément écouté en Angleterre. J'ai eu la chance de faire mes études en Angleterre, et on allait régulièrement voir ce groupe avec mes colocataires, et ça me rappelle mes années londoniennes.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Oh,
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Mathieu Tordeur. Mathieu Tordeur, donc explorateur, aventurier, qui nous raconte cette extraordinaire aventure qu'il a racontée dans son livre qui s'appelle « Le continent blanc » paru chez Robert Laffont, « 51 jours seul en Antarctique ». Alors maintenant, j'ai encore plein d'autres questions à te poser. Raconte-nous ton rituel du soir.
Toutes les journées se ressemblent un peu en Antarctique parce qu'on est dans un univers qui est très blanc, qui est très monochrome et donc il faut être très organisé. Autrement, je pense qu'on perd la tête assez rapidement. Donc moi, j'avais des rituels, j'avais des journées qui étaient très encadrées dans le temps. Je fonctionnais avec ma montre pour pas me perdre parce qu'il fait jour tout le temps et on est dans un espace qui est très similaire de jour en jour. Donc c'est important d'avoir une forme de routine, d'avoir une forme de rythme dans ces journées. Et donc moi, je terminais mes journées de ski aux alentours de 19h30. Je montais donc ma tente qui était donc assez rapide à monter parce que j'étais rodé à l'exercice et donc je mettais ensuite dans la tente tout ce dont j'avais besoin pour la nuit. Donc j'avais un tapis de sol en mousse et ensuite un tapis de sol gonflable. Ce qui est important, c'est vraiment de s'isoler du sol le plus possible parce qu'on dort à même la neige, donc il faut être isolé de...
Mais ce tapis gonflable, tu le gonflais tous les soirs ou il restait gonflé tout le temps?
En fait, j'avais un grand traîneau qui faisait 1,80 m de long et donc ça permettait en fait de pas avoir à replier tout mon matériel tous les matins et tous les soirs. Et donc la tente, eh bien, j'avais pas besoin de la remettre dans son sachet de transport, quoi. Je pouvais la mettre par-dessus le traîneau, le sac de couchage pareil, je pouvais vraiment le mettre au-dessus de toutes mes affaires.
Et c'était pas glacé quand tu te...
C'était un peu glacé, mais en fait c'était pas gênant outre mesure. Le tapis de sol, c'est pareil, j'avais pas besoin de le regonfler tous les soirs, je pouvais le mettre directement au-dessus de mon matériel. Et puis donc j'ajoutais le réchaud pour le soir qui me permettait de faire fondre la glace et me faire à manger tout simplement. Et puis après j'embarquais dans la tente tout mon matériel de communication. J'avais un panneau solaire, j'avais un téléphone satellite, j'avais donc un téléphone. Et ça me permettait en fait d'écrire tous les soirs, ce qui a servi aussi de trame au livre, et qui me permettait aussi de raconter mon aventure en temps réel. Ça me permettait en fait d'envoyer tous les soirs un petit texte et une photo sur la journée. Je l'envoyais à mon équipe qui était basée en France par satellite. Et puis eux les relayaient sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Et ça permettait aux partenaires, aux sponsors, aux proches et aux amis de suivre l'aventure en temps réel. Et ça, c'était chouette parce qu'il y avait aussi une balise GPS qui donnait ma position sur une grande carte. On voyait combien de kilomètres j'avais parcouru, combien de kilomètres il me restait à parcourir. Et ça permettait aux personnes qui étaient proches de l'expédition de me suivre pas à pas jusqu'au pôle. Donc ça, c'était un peu le rituel du soir. C'était manger, communiquer et puis après dormir parce que les journées étaient longues, jusqu'à quasiment 12 heures par jour. Et donc j'essayais de faire les plus longues nuits possibles, mais elles étaient quand même pas si longues que ça parce que je dormais peut-être 7 heures et demie. Il y a toujours des temps morts entre monter la tente, démonter la tente, faire fondre la glace pour obtenir de l'eau, manger, tout ça prend du temps.
Et alors tu dis que le seul bruit que tu entendais, c'était le crissement de la neige sous tes skis et le frottement de tes vêtements.
Ouais. En Antarctique, on a les sens qui sont un peu mis en sommeil dans la mesure où il n'y a pas d'odeur, il y a très peu de couleurs parce que souvent il fait gris, donc on a des nuages qui se confondent avec la neige. Et puis au niveau des sonorités, eh bien c'est des bruits qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre parce que c'est le bruit du vent sur la tente, c'est le bruit des skis sur la neige, le traîneau aussi qui frotte contre la neige, et puis des vêtements qui se frottent entre eux. Et c'est les seules en fait sonorités qu'on a pendant quasiment 2 mois parce qu'on n'a plus du tout le bruissement des arbres, on n'a plus le bruit des voitures. Donc c'est un univers qui ressemble un peu à une autre planète, quoi. On est vraiment plongé comme ça dans un monde où tous les sens un peu sont mis en sommeil. Et le fait de revenir à la civilisation après 2 mois, eh bien, j'avais l'impression de renouer avec un monde foisonnant de vie. Parce qu'au Chili, il y avait la nuit pour commencer. Il y avait aussi, des odeurs, des embruns de la mer, parce que Punta Arenas, c'est une ville portuaire. Et on est dans un univers, beaucoup plus humide que l'Antarctique. Alors, L'Antarctique, c'est très sec, c'est vide de tout. Donc on a l'impression vraiment de, ouais, d'être dans un, ouais, sur une autre planète.
Et alors, tu parles des crevasses qui sont ta hantise.
Ouais. On me demande souvent, ouais, quels sont les dangers, quels sont les risques. Eh bien, en Antarctique, on est sur un gigantesque glacier. Et comme tous les glaciers, eh bien, cette glace, eh bien, elle est pas figée. Elle bouge. Alors, elle bouge pas rapidement, mais elle se déverse vers la mer. Et en bougeant, eh bien, elle crée des zones de tension. Et ces zones de tension, elles ouvrent des grandes crevasses qui sont souvent bouchées par des ponts de neige. Les ponts de neige, c'est de la neige qui vient s'accumuler à l'ouverture de la crevasse. Et ça, c'était ma hantise absolue, effectivement, parce que quand on part seul, on peut pas s'encorder. Et donc, il faut être très, très vigilant à l'endroit où on va mettre ses skis. Et donc, moi, j'avais bien étudié mon itinéraire avec des images satellites du terrain qui me permettaient d'éviter, de contourner les plus grands champs de crevasses. Mais c'est vraiment le danger numéro un pour moi. Donc, il fallait bien regarder l'endroit où je me trouvais, bien garder ses skis aussi. Parce que quand on garde ses skis, eh bien, on est moins susceptible de tomber au travers d'un pont de neige et dans une crevasse parce que le poids est réparti sur 2 mètres de ski et pas sur ses deux pieds. Donc c'était vraiment le risque numéro un, c'était ces crevasses.
Alors dans ton livre, Le Continent Blanc, j'avais lu que le pilote qui t'a déposé, qui est une femme d'ailleurs,
ouais, Monica,
t'avait dit « Bienvenue en enfer ».
Ouais, alors Monica, elle est nord-américaine, elle connaît bien le terrain parce que c'est une des pilotes qui vient régulièrement en Antarctique. Il n'y en a pas beaucoup des pilotes. Moi, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont capables quand même de voler dans des conditions pas possibles et d'atterrir dans des conditions sur de la neige avec peu de visibilité. Et Monica, elle va régulièrement comme ça déposer des gens au bout du monde. Et quand on est arrivé là-bas pour la blague, elle m'a dit bienvenue en enfer parce qu'elle sait en fait à quoi je vais être confronté pendant 2 mois. Elle l'a dit avec le sourire. Moi, je considérais pas que c'était l'enfer parce que j'avais rêvé d'être là, mais ça voulait dire que ça allait être du sport. Quoi.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant, Mathieu ?
On écoute un morceau qui s'appelle Fake Empire. C'est un groupe qui s'appelle The National. Et ouais, c'est un groupe qui m'est cher parce que je les suis depuis le début qu'ils ont formé leur groupe. Et pareil, c'est une musique que j'écoutais beaucoup en Angleterre et qui me rappelle beaucoup de souvenirs de ma période anglaise.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Mathieu Tordeur. Mathieu Tordeur qui vous raconte depuis tout à l'heure une magnifique expérience, une aventure incroyable. Il l'a relaté dans Le Continent Blanc, 51 jours seul en Antarctique, qui est paru chez Robert Laffont, et je vous incite à lire ce livre qui est absolument passionnant, parce que vous découvrirez encore beaucoup plus de choses que ce qu'on peut vous raconter dans ce court espace de temps de l'émission. Alors Mathieu, j'ai quand même envie que tu nous expliques ce qu'il y a dans l'Antarctique. Il y a donc des bases scientifiques. Ça, on ne le sait pas. Et elle ressemble à quoi et qu'est-ce qu'on y fait?
Alors, en Antarctique, il y a une cinquantaine de bases dans lesquelles on fait
autant
de la...
Autant que ça?
Ouais. Les Français, ils en ont deux. Il y en a une en Terre Adélie, qui est en face de la Nouvelle-Zélande. La base, elle s'appelle Dumont-Durville. Et puis, il y en a une autre qui est partagée avec les Italiens, qui s'appelle Concordia, qui est un petit peu plus dans les terres. Au pôle Sud, quand je suis arrivé, j'ai vu une base scientifique qui s'appelle Amundsen Scott, en hommage aux premiers explorateurs du pôle Sud. Et elle est tenue par des Américains. Elle est en place depuis 1956. Et donc, il y a tout un tas de scientifiques qui travaillent en Antarctique. Pendant l'été, il y a 5000 scientifiques en Antarctique qui sont répartis dans plein de bases. La majorité des bases, elles sont sur le pourtour du continent antarctique, donc proche de la côte, parce que c'est plus facile d'être ravitaillé par la mer plutôt que par voie aérienne au cœur du continent où les conditions sont plus difficiles. Et leurs activités, elles sont multiples. Souvent, ce sont des études qui sont faites sur la glace, sur l'atmosphère, sur le climat. L'hiver, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le spatial aussi, sur l'étude des étoiles, puisqu'il fait nuit tout le temps, et donc il y a quelques télescopes qui étudient donc notre galaxie. Donc aujourd'hui, l'Antarctique, c'est un continent qui a un statut très particulier, puisque c'est un continent qui est protégé par un traité, qui s'appelle le traité sur l'Antarctique, et qui stipule le fait, en fait, que l'Antarctique, c'est un continent dédié à la science et à la paix. On ne peut pas avoir aujourd'hui d'activité militaire ou d'activité d'extraction des ressources naturelles qu'on pourrait trouver dans le sol. Et donc, l'Antarctique, c'est un continent qui n'appartient à personne, mais par extension, en fait, qui appartient à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment la science qui prédomine. Et il y a tout un tas de scientifiques qui s'y relaient pour mener à bien ces expériences scientifiques, notamment de glaciologie, de carottage de glace, où on vient forer comme ça dans le sol pour reconstituer le climat passé. Et il y a tout un tas de domaines qui sont représentés, mais il n'y a pas que des scientifiques. Ces bases, elles fonctionnent avec tout un tas de corps et de métiers différents. Il faut des électriciens, il faut des boulangers, il faut des cuisiniers, il faut des logisticiens. Et donc, il n'y a pas que des scientifiques. Si vous avez envie de travailler en Antarctique, il y a plein de métiers et de compétences qui sont recherchés.
Alors toi, pendant ce temps-là, tu tires ton traîneau tout seul.
Ouais.
Tu dis à un moment que tu avais même le risque de te geler la cornée des yeux.
Ouais. Alors évidemment, l'Antarctique, j'apprends rien à personne en disant ça, mais il fait très froid. Il y a beaucoup de vent. Et donc on peut avoir des gelures si on laisse le bout du nez ou les joues exposés à l'air libre. Quand il fait moins 30 et qu'il y a du vent, eh bien tout ça gèle très très vite. Donc il faut extrêmement se protéger, bien s'habiller, bien se couvrir. Et il faut aussi avoir un masque sur les yeux, un masque de ski. Parce que autrement, si on a les yeux non protégés, eh bien ça peut geler la cornée ou ça peut créer ce qu'on appelle l'ophtalmie des neiges. Là-bas, c'est un univers qui est très lumineux, puisque tout est blanc. Et donc les rayons du soleil sont reflétés par la neige, et donc ça peut abîmer les yeux, donc il faut se protéger.
Tu as eu une très grosse émotion, je crois, à un moment, parce que tu avais une lettre que tu avais emportée avec toi, et que tu as lue au milieu de cette immensité blanche.
Effectivement, j'avais une lettre que m'avait écrit mon père, et il m'avait dit, mon père, qu'il avait écrit cette lettre et que je pourrais la lire si j'étais découragé, si j'avais envie d'abandonner. C'était pour lui une manière de me soutenir. Et moi, j'avais mis cette lettre dans mon traîneau. J'avais oublié un petit peu cette lettre. Est-ce que je l'avais vraiment oubliée ou est-ce que j'avais fait exprès de pas y penser? Je sais plus exactement. Mais cette lettre, c'était en fait une lettre d'amour, quoi. C'était une c'était une lettre de soutien et je l'ai lue la veille de l'arrivée au pôle sud. J'ai jamais ressenti en fait le besoin de la lire avant parce qu'il m'avait dit que c'était une lettre à ouvrir et à lire qu'en cas de voilà de volonté d'abandon. Et en fait, je pense qu'elle m'a aidé parce que le fait de savoir que j'avais cette lettre, eh bien, elle m'a poussé aussi à tenir et à pas abandonner. Et je l'ai lu la veille de l'arrivée puisque je savais que j'allais réussir mon pari, je savais que j'allais réussir à aller au bout. Et c'est une lettre magnifique quoi, d'amour d'un père à son fils. Et moi, elle m'a beaucoup touché. Donc, je l'ai partagée avec les lecteurs dans ce livre.
Alors, tu dis qu'à l'arrivée, tu as l'impression d'être dans un film au ralenti.
Ouais, parce que c'est un moment, en fait, qui est unique de réaliser un rêve de gosse, un rêve d'enfant, de terminer, en fait, une longue marche de 51 jours, mais aussi un projet qui a duré des années, à la fois dans l'esprit, mais aussi dans la préparation. Et quand j'arrive, j'essaye de ralentir le temps, j'essaye de m'imprégner le plus possible de ce moment complètement unique, de faire les derniers mètres jusqu'au pôle, j'essaye de regarder autour de moi, de me souvenir un peu de ce moment toute ma vie, et donc j'ai l'impression effectivement que tout est un peu au ralenti et de vivre un rêve éveillé et d'être un petit peu comme dans un film quoi. Et donc je prends comme ça le plus de temps possible pour arriver vers le pôle sud. Toute cette expédition, ça a un petit peu été une course contre la montre, puisque les conditions étaient très difficiles en 2018. J'ai accumulé beaucoup de retard au début de l'aventure. Et donc, quand j'arrive enfin, au bout de 51 jours de marche, et que je sais que c'est bon, eh bien, j'essaye vraiment de profiter le plus possible de cet instant magique. Et effectivement, j'ai l'impression de me voir au ralenti et dans un film. Et c'est un moment absolument inoubliable.
Alors, tu cites ton ami Jean-Louis Étienne, qui a donc été un grand explorateur, un grand aventurier avant toi.
Ouais.
Et tu dis, on ne repousse pas ses limites, on les découvre.
Ouais, Jean-Louis, c'est une de ses phrases fétiches et je la trouve très vraie. Je trouve que quand on se lance dans ce genre d'aventure, on connaît pas, en fait, ses propres limites. On connaît pas jusqu'où on est capable d'aller. Et je trouve que c'est beau de croire ça parce que autrement ça voudrait dire qu'on évolue en fait dans une zone très confortable où on viendrait juste un petit peu toucher ses limites. Non, je crois que quand on se lance dans un projet ambitieux, eh bien on sait pas forcément jusqu'où on est capable d'aller. On sait pas qu'on est plus capable de ce qu'on croit, qu'on est plus résilient qu'on pense l'être, et donc finalement c'est en se mettant à l'épreuve, c'est en se donnant comme ça des défis, des challenges qu'on apprend à mieux se connaître et qu'on découvre justement jusqu'où on est capable d'aller. Et en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en Antarctique. Je suis vraiment allé au-delà de ce que je pensais moi capable de faire. Je m'étais donné les moyens en m'entraînant bien, mais ça a été encore plus dur que ce que j'avais jamais pu imaginer, et finalement j'ai quand même réussi mon pari. Et en arrivant au pôle sud, je suis devenu donc la plus jeune personne au monde à atteindre cet objectif et à rallier le pôle sud.
Tu es entré dans le livre Guinness des records.
Ouais, absolument. Ouais, ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et donc, ouais, je fais partie de ce livre mythique.
Mon cher Mathieu, c'est trop court cette émission.
Je reviendrai.
Terminer sur quand tu dis j'ai mobilisé des ressources que je ne soupçonnais pas, je suis allé au bout de moi-même.
Ouais.
C'est très beau.
Ouais, c'est vraiment ça.
Merci d'être venu nous parler
Merci
de cette
toi.
Formidable expédition. Donc, je redis pour nos auditeurs, Mathieu Tordeur, Le continent blanc, 51 jours seul en Antarctique, chez Robert Laffont. Lisez le livre, vous ne serez pas déçus. Vous allez vivre une aventure exceptionnelle qu'on a essayé de vous faire vivre aujourd'hui au micro. Merci à toi, Mathieu.
Merci, Viviane.
Et merci à Olivier Steinmetz qui nous enregistre et qui monte nos émissions. À bientôt.
À bientôt.
Radio Cité Genève. Viviane de Witte.
La bouteille à moitié pleine.